RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Cruchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Retour des grandes gueules sur RMC, la radio RMC Story, la télé, avec autour de la table pour terminer la semaine Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie, l'avocate Sandrine Pégan et un petit nouveau, le restaurateur Donfleur en Normandie, Zoran Spasojevic. Tout se passe bien, Zoran?
Parfait.
Pardon, merci.
Mais petit début, nouveau alors qu'il est grand. Hein.
Depuis le début quand même, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais nous avons le sosie officiel de Phil Collins.
Oh purée, maintenant que tu le dis, c'est vrai.
C'est pas la première fois qu'on me le dit.
Ah.
J'ai pas son talent.
Non mais c'est vrai, c'est impressionnant.
Exact, ah oui.
Est-ce que tu pourrais enlever tes lunettes pour qu'on voit vraiment? Voilà, on a Phil Collins.
Aïe,
avec
aïe,
nous.
Aïe.
On te le dit, non?
Ouais, on me le dit souvent. Ouais.
Est-ce que je peux avoir un autographe?
Et beaucoup la clientèle anglaise. D'ailleurs.
Alors, ça serait Phil Collins qui aurait rencontré Jérôme Marty un peu. Hein. Voilà. Maintenant, Jean-Loup, Phil Collins, tu connais?
Bien sûr, quand même.
Bon. Pas très en forme, Phil Collins. Hein. Il est pas très en forme.
Non, ouais. t'es en meilleure santé que Phil Collins.
Mais quelle carrière incroyable. Ouais.
Bien sûr, ouais. Phil Collins, c'est toute notre jeunesse.
Voilà. Il doit jouer.
Oui, la vôtre, parce que bon, excusez-moi.
C'est les années 80, les années 90.
Vous avez de la vraie musique.
Ouais. Non, mais c'est.
Oh là là, il y a un petit tacle. Genesis.
C'est vrai, Genesis.
Bon, mes chers amis, dans un instant, on va parler donc de cet écart entre le salaire net et le salaire brut. C'est un scandale français. C'est pas moi qui le dis, c'est Gabriel Attal, candidat à l'élection présidentielle. Il sera avec nous au téléphone pour nous expliquer ce qu'il compte faire s'il était élu président de la République, puisqu'il veut un choc des salaires. Mais en attendant, il y a un choc d'énergie qui se continue à la pompe. Je sais pas si vous avez fait le plein récemment, mais malheureusement, avec la reprise des hostilités au Moyen-Orient, eh bien, de nouveau, on paye très cher notre carburant. Total Énergie a décidé de reconduire le plafonnement des prix. Ça, c'est une bonne chose. Mais en même temps, on apprend que la compagnie française a fait un bénéfice net, simplement sur le deuxième trimestre, de 5,4 milliards de dollars.
C'est un braquage. Le carburant s'installe comme un impôt. Manger ou conduire, il faut choisir.
Alors, qui dit études, dit travail, qui dit taf, te dit les thunes, qui dit argent, dit
voilà,
dépenses.
Voilà, ça c'est de la bonne musique.
Dit crédit,
Phil Collins, là, les années 80.
Le plafonnement des prix à 1,99€, c'est ce que décide de reconduire Total. Dans ces stations-service, il y a environ un tiers des stations en France qui sont des stations Total. Et on sait que ça a bien fonctionné jusqu'à présent. On voit des files d'attente devant les stations Total lorsqu'on parcourt la France. Et au même moment, le problème, c'est qu'on s'aperçoit que Total fait des bénéfices records avec ce qui se passe au Proche-Orient, puisque le bénéfice net du deuxième trimestre, c'est plus de 5 milliards de dollars. Alors la question est très simple, doit-on demander à Total un effort supplémentaire? Certains estiment qu'il faudrait taxer les super profits de Total, d'autres pourraient demander à Total de plafonner non pas à 1,99€ mais à, je sais pas, à 1,95€. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou laissons Total agir, c'est une entreprise privée, et s'il y a un problème de dépendance au carburant, c'est pas le problème de Total, c'est peut-être le problème de la France. Jean-Loup Bonamy.
Alors, moi j'ai une solution pour faire baisser les prix à la pompe, hein. Tu la connais?
Je la vois venir.
Moi, je la connais pas, non.
Arrêtez les guerres impérialistes absurdes et illégitimes. Envoyez la facture à messieurs Netanyahou et Trump, qui sont les responsables de cette situation par leurs décisions catastrophiques.
Je crois que malheureusement, la France a peu de pouvoir en la matière.
Ah bah oui, bah, c'est un peu le problème. Mais en tout cas, c'est eux les vrais responsables. Je vois pas pourquoi c'est Total qui paierait pour les décisions catastrophiques de Benjamin Netanyahou et de Donald Trump, qui sont en fait les vrais responsables de cette situation. Total, c'est une entreprise privé, ils plafonnent les prix. Également, si tu veux, on en a déjà parlé, si tu veux réduire notre dépendance aux importations d'hydrocarbures étrangers, importations qui par ailleurs sont libellées en dollars, hein. Je remarque qu'on est toujours sous l'impérialisme monétaire du dollar, eh bien la solution aussi, on en avait parlé, y compris quand on avait reçu monsieur Chinansky, c'est la question de des hydrocarbures qui se trouvent sur le sol français, et notamment du pétrole et du gaz de schiste. Et c'est des questions, c'est des pistes, on a complètement verrouillé en 2011-2012, on en parlait beaucoup, Arnaud Montebourg en parlait, le rapport Gallois commandé par François Hollande sur la réindustrialisation en parlait. Ça a complètement été verrouillé pour des raisons idéologiques, alors que pourtant les méthodes d'extraction sont devenues plus propres qu'il y a 15 ans. Et donc, c'est...
On se prive d'une ressource.
Bah, on se prive d'une ressource et après on dit « Ah, je comprends pas, monsieur Total, il est méchant, faudrait qu'on vive à Cuba et qu'il plafonne ses prix. » Non, voilà, c'est une entreprise privée. C'est une fierté française, c'est un fleuron français.
Il fait la plupart de ses bénéfices, d'ailleurs, il faut être honnête, en dehors de la France.
Oui, hein, quand on parle des bénéfices. Concernant Total, il y a un vrai risque beaucoup plus important, beaucoup plus structurel, c'est qu'aujourd'hui, il y a une ingérence américaine et qu'en fait, les Américains veulent faire passer Total, qui est un fleuron français, sous leur pavillon, que ça soit, qu'il y ait une prise de contrôle américaine de Total. On n'explore pas les hydrocarbures de schiste en France. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Alors, est-ce qu'il faut demander plus à Total, Zoran?
Je pense que déjà, dans la législation, on n'a pas le droit de vendre à perte. Donc, entre les taxes et le prix du carburant, je ne pense pas qu'ils puissent indéfiniment baisser leur prix. Ils ne peuvent pas perdre de l'argent non plus, c'est interdit. Donc, eux, ils font au moins leur boulot, c'est-à-dire qu'ils plafonnent, ce que ne fait pas l'État, par exemple.
Donc, on devrait plutôt baisser les taxes sur le carburant.
Oui, je pense. Mais bon, de toute façon, on est dopé à la taxe, on ne sait pas faire ça. On n'a pas, l'historique et l'idéologie pour baisser les taxes. Donc, ça n'arrivera pas. Mais on ne peut pas... On devrait plutôt être fier des résultats de Total.
Bon, maintenant, mais on n'aime pas en France quand l'entreprise réussit trop. On trouve ça suspect en général.
La problématique est de savoir.
En revanche, quand l'entreprise est en difficulté, il faut l'aider dans ce cas-là.
La problématique est de savoir où est-ce qu'il gagne cet argent-là. Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est à l'étranger? On devrait plutôt être fier que c'est un fleuron français et que ça soit bien géré. Enfin, le drame, ça serait qu'elle gagne pas d'argent d'ailleurs.
Si elle gagne pas d'argent, on nous demanderait de l'aider.
Et de savoir comment c'est redistribué. Par contre, ça c'est plus épineux. Allez-y.
Je t'ai coupé. Désolé. Et rendez-vous bien compte du poids de patron de Total, de Monsieur Pouyanné, dans le monde. Quand il est reçu comme un chef d'État. Il a plus d'importance qu'un ministre français. Voilà, c'est quand même. C'est Total, c'est une fierté française. Il faut que ça reste français sous contrôle français. Et Et donc, on peut être content qu'une entreprise fasse du profit et pas se lancer dans. Voilà.
Mais ils sont systématiquement stigmatisés, d'ailleurs.
Mais moi franchement, moi, Total, ça ne me choque absolument pas qu'elle fasse des bénéfices. Une entreprise est là pour gagner de l'argent. Maintenant, ce que je trouve paradoxal, c'est qu'on demande à Total d'investir dans les énergies renouvelables. Mmh. Mais du coup, ils gagnent quand même de l'argent avec le pétrole. Donc, et c'est grâce aux bénéfices du pétrole que du coup, elle va pouvoir investir dans les énergies renouvelables. Donc, tu vois, c'est assez paradoxal. Tu dis à un moment donné, ça prouve juste une chose, c'est qu'encore on est très dépendant du pétrole. Et donc à un moment donné, il va falloir qu'on s'en sorte de ça, puisque donc on est en train de voir tout ça. Donc tout ça, c'est très paradoxal.
Dans le coût du pétrole, déjà. Dans le coût du pétrole, tu as également des taxes qui servent à financer des énergies renouvelables complètement absurdes, comme l'éolien. Je rappelle que l'Europe du Nord-Ouest n'est pas un endroit spécialement venteux, et donc l'éolien, c'est hyper subventionné et que c'est quelque chose qui fonctionne à perte et qui, du point de vue de la compétitivité énergétique, n'est pas intéressant. Voilà. Et donc, évidemment, si on arrêtait de surtaxer le pétrole pour financer des énergies non rentables, alors qu'en fait on a le nucléaire, eh ben peut-être aussi que ça coûterait moins cher à la pompe, quoi.
Mais d'accord. Mais quand j'entends, par exemple, les insoumis ou la gauche dans son ensemble dire, il faudrait quand même que ces grandes entreprises qui s'enrichissent quand même. Je veux pas utiliser le terme de profiteur de guerre parce que c'est très péjoratif. Total ne souhaite pas qu'il y ait une guerre.
Ils disent tous que Total profite de la guerre.
Oui, mais c'est un peu dégueulasse parce que c'est
la pas aussi
que l'entreprise
aussi.
Voudrait
tout
la guerre.
Le pétrole vient pas de là-bas.
Le pétrole, il vient pas que de l'Iran.
Et puis les prix sont mondiaux, donc de toute façon,
c'est un marché. Total n'est pas responsable du marché du cours du pétrole, mais en même temps, ils disent il y a des super profits que Total n'avait pas prévus. On pourrait un peu lui prendre, quoi, en fait, en quelque sorte, et les redistribuer aux Français. Est-ce que c'est pas plus efficace le plafonnement de Total? Qu'est-ce qui serait plus efficace? Prendre des impôts supplémentaires à Total ou dire à Total continue à plafonner tes prix tout l'été?
Je pense que ni l'un ni l'autre, parce que à titre personnel, je n'ai pas spécialement envie d'emménager au Venezuela. Or là, tu me proposes des méthodes vénézuéliennes. Donc il y a la méthode catastrophique qui consiste à tout plafonner, comme pendant la Révolution française. Le comité de salut public avait fixé un maximum des prix, maximum des salaires. Et t'as une solution encore plus catastrophique, la solution catastrophique plus plus, qui consisterait justement à faire la guerre au profit. Voilà, moi je t'ai donné des pistes plus structurelles, supprimer la taxe qui finance des énergies soi-disant renouvelables et en fait débiles, explorer les hydrocarbures de schiste, arrêter les guerres débiles. Voilà, moi je te propose des pistes de fond.
Olivier est avec nous. Bonjour Olivier.
Vous nous appelez
de Lyon,
tous,
magnifique département du côté
exactement.
De Seignelay.
Exactement.
Bon, vous n'êtes pas surpris par le fait que malheureusement les prix repartent à la hausse à la pompe?
Bah non, ça fait du yo-yo depuis un bout de temps, et puis de toute façon, je pense que malheureusement ou heureusement, moi je dirais plutôt malheureusement, mais quand tout ça se sera calmé, parce qu'un jour ou l'autre ça va se calmer, faut plus s'attendre à avoir des litres à 1,50, 1,70. On est en train de nous préparer à du 1,80, 1,90 et du 2 €, parce qu'en en toile de fond, on a aussi pour moi la problématique électrique qui doit absolument sortir du bois, et puis voilà. Et puis alors quant à monsieur Pouyanné, moi je trouve qu'il fait un geste parce que tout le monde ne le ferait pas. En même temps, bon, c'est quand même une entreprise. Il fait des bénéfices, mais il est privé, ce monsieur. Donc, je veux dire, à ce moment-là.
Surtout les bénéfices, il ne les fait pas en France majoritairement,
oui,
il les fait ailleurs.
Oui. Non, mais Et puis c'est tellement facile de cracher dans la soupe encore une fois. Moi je propose à tous ces gens-là qu'ils fassent la même chose pendant 6 mois à la tête de quelque chose, et puis on va voir ce qu'ils vont faire, et puis on va voir quel que soit le secteur. Moi je suis artisan, si c'est pour travailler à perte, vous avez un restaurateur sur le plateau, si c'est pour travailler à perte, c'est même pas la peine. Donc il y a un moment pour arrêter quoi. C'est pas ce monsieur-là qu'il faut jeter la pierre, ce serait plutôt du côté de nos décideurs, le gouvernement, parce que pendant ce temps-là, eux, ils se frottent les mains, c'est royal. Voilà.
Mais il y a toujours une guerre d'informations sur les résultats de Total, c'est-à-dire que on est là, alors il y a une certaine frange de politique qui les critique et qui veut qu'ils payent plus d'impôts, mais est-ce qu'ils en payent? En fait, ça devrait être public, ça.
Oui, ils payent des impôts. Total paye des impôts sur ses activités en France.
S'ils payent des impôts sur la société, je vois pas pourquoi ils en paieraient davantage.
Non, ils payent bien sûr.
Ah oui, ils payent, ils sont obligés, de toute façon. Il y a une certaine transparence.
Oui, mais il y a toujours une petite guerre d'informations. Ils en payent pas, ils défiscalisent, ils optimisent, etc. Donc,
après, c'est le fantasme des Français.
L'optimisation, elle est légale.
Oui, l'optimisation est légale.
Mais ils payent des impôts. Mais certains pensent qu'ils n'en paye pas assez, qu'on devrait surtaxer, créer une surtaxe spéciale guerre, on va dire.
Oui, mais alors attends, est-ce qu'on peut être cohérent? Parce que si tu viens à taxer davantage Total, est-ce que finalement cette taxe, elle viendrait quoi? À réduire le prix du carburant pour les utilisateurs, ou est-ce qu'on viendrait aussi à réduire notre dépendance énergétique? Tu vois, on serait bien savoir, on aimerait savoir à quoi elle servirait cette taxe.
Pas de la guerre, par exemple. Et non. On veut aussi qu'ils payent plus d'impôts.
Oui, mais VMH, on accuse Bernard Arnault d'optimisation fiscale. Encore une fois, tout ça est légal.
Bah oui, c'est légal.
Il paye quand même plusieurs milliards d'euros d'impôts chaque année. Alors peut-être qu'il pourrait en payer plus.
Oui.
Mais on a de toute façon un problème avec nos grandes entreprises.
Oui.
On part du principe que c'est louche, une grande entreprise. On aime bien les petites entreprises qui ne gagnent pas grand-chose, voilà, qu'on doit un peu aider.
Et c'est très français, chaque fin de mois.
Et dès que l'entreprise devient importante, avec beaucoup de salariés, travaille à l'export, à l'étranger, ça devient louche.
Ouais,
oh là là, qu'est-ce qui se passe?
En attendant, on est quand même bien content quand ces grandes entreprises françaises financent et donnent des dons pour les réparations de Notre-Dame ou ce genre de choses. Hein, on parle de 800 millions quand même. Hein.
Là, on les a accusés de vouloir défiscaliser leurs dons.
C'est pas vrai, parce que Bernard Arnault avait dit qu'il ne défiscaliserait pas.
Et il a été obligé de le préciser. Ouais. Donc il y a toujours.
D'ailleurs, est-ce qu'il l'a fait vraiment ou non? Est-ce que la transparence, elle est vraiment totale? Hein,
je pense qu'il n'a pas. À l'heure où tout se sait, il n'a pas intérêt à faire le contraire, je pense.
Non, mais c'est marrant, il y a vraiment. C'est une culture un peu anti-argent en France qu'on a, mais c'est pas nouveau, hein, ça a toujours été.
Ouais.
Je pense que
les
anglo-saxons
n'ont pas.
Ah bah c'est l'inverse, les anglo-saxons, c'est au contraire, plus t'es gros, plus tu gagnes de l'argent, plus on t'admire.
Ouais.
En France, les Asiatiques aussi.
Tu deviens un modèle, t'es un booster.
Encore une fois, on voit la facture à Trump. Le monde n'a pas à payer pour les décisions délirantes de la première puissance mondiale.
Jean-Baptiste est avec nous. Bonjour Jean-Baptiste.
JB, pardon.
Il nous appelle d'Ille-et-Vilaine, de Guy Prilessac, précisément. Est-ce qu'il faut demander à Total plus d'efforts?
Non, faut arrêter. Après, ça serait bien qu'ils puissent faire plus d'efforts. C'est comme toutes les revendeurs d'essence, de carburant. Mais après, le problème qu'il y a, c'est que on peut pas non plus demander qu'à Total de faire un effort. Ils sont, c'est pas non plus la voilà, c'est une entreprise comme tous les autres. S'ils font un effort supplémentaire, peut-être que ça peut les mettre en difficulté. Et comme toutes les entreprises, faut arrêter. Et après, c'est surtout que c'est une entreprise française encore. Mmh. Donc, on veut surtout aussi vendre une encore une entreprise, ouais, une des rares qui reste encore dans le pays, parce que la plupart des entreprises qui sont françaises, on essaye de les refourguer aux Américains. Donc, faut arrêter le.
Mais vous-même, quand vous faites le plein, vous allez dans les stations Total maintenant, parce qu'il y a le plafonnement.
Voilà. Je vais dans les stations qui sont les moins chères dans le secteur. Oui, il y a une station Total qui est par chez moi, et c'est vrai que j'ai tendance à aller chez Total, oui.
Alors, quand on dit moins cher, 1,99€, ça reste quand même.
Je vois ma femme, là, elle est monétrice auto-école. Donc, le problème qu'il y a, c'est que. Ben là, en ce moment, elle met à peu près 40€ de carburant, voire 50 tous les deux jours. Quoi.
Tous les deux
mais
jours,
ça veut dire qu'elle a augmenté ses tarifs en tant que gérante d'auto-école
Non, elle peut pas.
Elle peut pas, parce qu'elle travaille pour des plateformes. Et mais en fin de compte, le problème qu'il y a, c'est que malheureusement, si elle est répertoriée, c'est surtout qu'elle la gagne moins. Quoi. Bientôt, on se demande si c'est encore intéressant d'aller travailler. Quoi.
En voiture, ça c'est sûr.
Et est-ce que vous voyez, Jean-Baptiste, est-ce que vous voyez la file d'attente qui s'allonge justement à cette pompe à essence Total? Est-ce que vous voyez une certaine panique de la part des Français
C'est comme partout. D'abord, les Français sont paniqués. Regardez, avec le coup de l'été, là, avec les ventilateurs, dès qu'il y en avait un en vente, il y avait 15 personnes dessus.
Carrefour a vendu sur une semaine en juin 200 000 climatiseurs.
J'ai une question, Jean-Baptiste.
Ils ne sont pas produits en France.
Ils sont profiteurs de guerre aussi.
Est-ce qu'à terme, votre épouse ou vous-même, vous envisagez le passage à l'électrique? Parce que c'est quand même un sujet de fond.
Oui.
L'électrique, c'est bien beau, mais le problème qu'il y a, c'est que l'électrique, toutes les voitures électriques sont en boîte automatique. Donc, okay. Le problème qu'il y a, c'est que si vous voulez passer un permis en boîte manuelle, vous avez que le choix du thermique. Après, c'est bien beau l'électrique. Hein. Moi, j'ai rien contre le thermique, contre l'électrique, je veux dire. Mais l'électrique, c'est bien pour les petits trajets. Il y a des avantages, mais quand on voit aussi le coût de pollution pour la fabrication d'une voiture électrique, il faut arrêter de nous dire que c'est tout beau, c'est tout rouge.
Vous n'êtes plus dépendant de l'essence, c'est quand même un argument.
Après, pour moi, personnellement, je regarde en ce moment les annonces, et je pense acheter une voiture électrique pour mes petits trajets au quotidien.
D'accord. Une hybride, alors, dans ce cas-là.
Merci, Jean-Baptiste. Merci d'avoir appelé au 3216.
Est-ce que je peux faire un petit message aussi?
Allez-y.
C'est bientôt la rentrée scolaire, et moi, j'ai une fille handicapée, et en fin de compte, le problème qu'il y a, c'est que il n'y a pas de place dans les IME, ni dans les classes U10 en France. On est dans un département, là, le 35. C'est une catastrophe. Il n'y a eu que 3 places qui se sont libérées sur le nombre d'enfants qui pouvaient avoir...
Et pourtant, il y a une obligation d'accueillir tous les enfants de la République à l'école.
Malheureusement, là, ma fille va se retrouver dans une classe...
Elle
a 12 ans, elle va rentrer en 6e cette année. Et en fin de compte, elle va se retrouver dans une classe, on va dire, normale. Mais en fin de compte, le problème qu'il y a, c'est qu'elle a le niveau d'un enfant de CP, comme de mon fils, là, qui rentre en CP. Quoi.
Elle a besoin d'être accompagnée, d'être dans un...
Alors, au quotidien, en fin de compte, elle a besoin d'être accompagnée. Mais après, elle est quand même assez indépendante, parce que elle sait se débrouiller un peu par elle-même. Mais au niveau lecture et écriture, c'est très compliqué.
Bon courage à vous, Jean-Baptiste.
J'espère que le message sera passé.
Et en tout cas, le message est passé ce matin sur RMC dans les grandes gueules. Dans un instant, on avait peut-être une petite consultation là-dessus sur Total qui double ses bénéfices. Doit-on demander à Total d'augmenter sa ristourne, par exemple, à la pompe? On a posé la question sur le compte X des grandes gueules. Évidemment, à 47,9%.
Non.
52,1%. C'est assez partagé. Dans un instant, comme promis, Gabriel Attal, qui veut un choc des salaires. Il trouve que c'est un scandale français, l'écart entre le salaire net et le salaire brut. Mais que compte-il faire vraiment? Eh bien, on lui posera la question. Il sera face au GG. À tout de suite.
RMC.
Anna Marshall, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Il y a 18.
10h25 sur RMC, RMC Story. On était en train de parler des charmes de la Normandie, de Honfleur, puisque aujourd'hui nous avons un restaurateur de Honfleur, ce magnifique port de pêche en Normandie, dans le Calvados. Oui. C'est Zoran Spasojevic qui est avec nous.
Bien dit.
Avec Sandrine Pécan et Jean-Loup Bonamy. Nous allons parler maintenant, en gros, sous salaire et différence entre le salaire brut et salaire net. L'écart entre le net et le brut est devenu un scandale français. Qui dit ça? C'est Gabriel Attal, qui est candidat à l'élection présidentielle et qui est avec nous en ligne. Bonjour Gabriel Attal.
Bonjour.
Vous êtes du côté de la Bretagne, c'est ça?
Je suis dans le Finistère, près de Locsudi plus précisément. Je passe 3 jours dans le Finistère et le Morbihan à la rencontre de chefs d'entreprise, de salariés, d'associations. Là, j'étais avec les sauveteurs en mer et j'ai passé ce matin du temps avec les pêcheurs du Guilvinec à la Criée.
Alors, ce sujet, c'est un sujet qu'on traite souvent dans les grandes gueules. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'auditeurs qui se plaignent de ces différences qui semblent de plus en plus importantes entre ce qu'on est censé toucher et ce qu'on touche réellement, entre le brut et le net. Vous dites que c'est un scandale, mais que comptez-vous faire? Parce que je vous ai entendu dire, et j'ai même lu votre interview, vous dites « je veux un choc des salaires ». Mais ça veut dire quoi concrètement?
Ça veut dire qu'on a un modèle social qui coûte de plus en plus cher et qui repose de plus en plus sur les épaules des seuls salariés. Pour vous donner un ordre de grandeur, la génération de mes grands-parents, sur un salaire de l'équivalent de 100 euros, ils gardaient 70 euros. Aujourd'hui, sur l'équivalent de 100 euros, quelqu'un qui travaille, il garde 54 euros. Donc on voit que le modèle coûte de plus en plus cher et c'est les salariés, enfin c'est ceux qui bossent, qui le supportent sur leurs épaules. Donc moi, ce que je veux, c'est baisser les charges qui pèsent sur les salaires pour réduire l'écart entre le net et le brut. C'est possible en assumant de faire des économies sur le social et en assumant de repenser le financement de notre modèle social.
Oui, parce que ces charges, ce qu'on appelle les cotisations, mais ça finance notre modèle social, nos dépenses sociales.
Oui, ça finance nos dépenses qui augmentent beaucoup, qui ont beaucoup augmenté. Et donc, il faut assumer aussi de les maîtriser pour des économies. Moi, j'avais proposé quand j'étais Premier ministre, par exemple, une réforme de l'assurance chômage pour que notre système d'assurance chômage nous coûte moins cher. Par ailleurs, ça incite aussi au travail et à l'activité. Bon, malheureusement, à cause de la dissolution, la réforme n'a pas pu se mettre en œuvre, mais c'est un exemple d'économie qu'on peut faire. Il y a d'autres réformes sociales qui nous permettent aussi, qui nous permettraient aussi de faire des économies.
Mais quand on dit réforme sociale, c'est souvent quand même des mauvaises nouvelles pour les Français. C'est on rembourse moins les médicaments, c'est la réforme des retraites, on part plus longtemps, enfin on travaille plus longtemps. Et ça, il faut le dire aux Français.
Ouais, il faut le dire. Mais vous voyez, par exemple, sur la réforme de l'assurance chômage que j'avais proposée, je crois qu'une majorité de Français, ils sont favorables. D'ailleurs, ils sont le montrer parce que je pense que majoritairement, les Français sont conscients qu'on doit avoir un modèle social qui incite davantage à l'activité et au travail.
Mais est-ce que, par exemple, vous supprimez des aides sociales?
Moi, j'avais proposé de supprimer une aide sociale, qui est l'allocation de soutien spécifique, et l'équivalent du RSA, sauf que ça vous permet en plus d'avoir des droits à la retraite. J'avais proposé, dans ma déclaration de politique générale, de supprimer une allocation, ce qui n'a jamais été fait. Encore une fois, au bout de 8 mois...
Alors, attendez, Gabriel Attal, on est en train de vous perdre. Parce que la liaison est moins bonne. Il faudrait aussi que la 5G passe bien partout en France. Ça serait aussi une bonne réforme. On va essayer de vous rappeler tout de suite. Parce que là, on était en train de perdre la conversation. Sur le principe, vous êtes d'accord avec ça, Sandrine Pégo? Alors, Sandrine, t'es pas salariée, toi, t'es profession libérale. Mais est-ce que c'est effectivement, il faut essayer de réduire cet écart entre le brut et le net?
Alors, c'est vrai que monsieur Attal a entièrement raison. C'est un scandale aujourd'hui. Tu dois pouvoir vivre de ton salaire. Maintenant, j'ai un peu l'impression qu'il commence à entamer la grande parade des promesses. Parce que bon, moi je suis prête à signer tout de suite avec lui, aller boire un café, hein, évidemment. Mais bon, hein, j'ai toujours peur qu'on reprend d'une main pour donner à l'autre, etc. J'y vois pas trop véritablement, en tout cas là, pour le moment, le vrai dispositif. Qui va payer? Parce qu'à un moment donné, il y a toujours ça qui... c'est-à-dire que si tu baisses les cotisations, si tu réduis l'écart, donc il promet un choc de 40 milliards, à quel moment on va récupérer l'argent ailleurs, moi? Voilà, c'est ça qui me...
Toi qui es employeur. Ouais. Donc toi tu fais partie du côté du brut, toi.
Moi je suis du côté du brut. Et puis rien ne nous ferait plus plaisir que de donner plus à nos employés. Je veux dire de réduire. Le problème c'est les charges. Mais de toute façon on est dans la période des promesses. Quand on parle de dépenses sociales, la l'entière majorité des dépenses sociales est absorbée par les retraites.
Oui.
Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, on résoudra rien. C'est là qu'il faut faire, qu'il faut aller chercher de l'argent.
Et on l'a suspendu, la réforme de la retraite.
Oui, et là, les petites mesurettes, supprimer ci, supprimer ça, je pense que ça rimera à rien.
Oui, mais alors qui va financer les retraites alors demain ?
Il faut travailler plus. Il faut travailler plus. Toujours, mais le problème, c'est qu'aux périodes électorales, c'est un sujet tabou, puisque les retraités votent.
Bah, les retraités, eux, de toute façon, ils sont déjà à la retraite. Donc
ils sont déjà à la retraite. Oui, mais ceux qui vont y arriver.
Mais regarde, il y avait la réforme des retraites, elle est passée difficilement. Et finalement, on l'a suspendu pour pouvoir obtenir
c'est très français,
majorité
ça,
et faire passer le budget. Donc, on voit bien qu'on a du mal parce qu'on recule à chaque fois.
Oui, à chaque fois, on recule. Et comme ça va être notre principale dépense dans les prochaines années, tant qu'on n'aura pas résolu ça, on ne résoudra rien. Il ne faut pas rêver.
Jean-Loup Bonamy.
Écoute, je suis un peu coincé parce que j'ai de nombreuses divergences avec le jeune Attal, comme dirait Charles Consigny. Donc j'ai de nombreux points de divergence. Mais là, pour l'analyse qui est faite, vu qu'il dit exactement que la même chose que ce que dit Charles Consigny ou que ce que je dis moi-même sur ce plateau, évidemment, je ne peux que, sur ce point, souscrire à l'excellente analyse.
Et là où vous ne serez pas d'accord, c'est les solutions. Parce que nous, on est d'accord pour réduire.
Ah, mais moi, je suis assez d'accord.
Mais on voudrait quoi ?
Je pense que j'en proposerais des solutions supplémentaires qui viendraient s'ajouter. Mais je pense, de ce que j'ai vu, que je suis assez d'accord sur celles qui sont déjà proposées par Gabriel Attal. Et c'est juste que moi, j'en proposerais encore davantage. Moi, je pense qu'il faut faire entrer plutôt beaucoup de jeunes dans le monde du travail, parce que il y a beaucoup de jeunes qui font trop d'études trop longues et inutiles et qui entrent trop tard sur le marché du travail. Ça réduit le nombre de cotisants. Je pense qu'il faut travailler plus, qu'il faut partir en retraite plus tard. Je pense qu'il faut arrêter
même ceux qui ont quand même eu des travaux difficiles leur vie.
Ceux qui ont des travaux difficiles physiquement, je pense qu'il faut les aider à trouver un autre travail moins difficile
pour terminer leur carrière.
Je pense qu'il faut également favoriser le cumul emploi-retraite, par exemple, que ce soit plus intéressant pour des gens qui sont à la retraite de venir travailler en étant payés un ou deux jours par semaine. Je pense qu'il faut désindexer les retraites de l'inflation pour laisser manger, pour que l'inflation mange une partie des retraites et assumer une nouvelle répartition des richesses.
C'est tabou parce que
je pense qu'il faut aucune retraite supérieure à 5000 euros net par mois. Quand t'es à la retraite, c'est pas normal de toucher plus de 5000.
Alors, on a retrouvé Gabriel Attal en Bretagne, ça passe pas bien, Gabriel Attal dans le Finistère.
Faut venir à Paris, monsieur Attal.
Il va falloir aussi régler ce problème. Non mais sérieusement, bon, les grandes gueules sont plutôt d'accord avec vous, mais notre ami Zora, le restaurateur, disait quand même le point important, ce sont les retraites. C'est ça qui mange en quelque sorte une bonne partie de nos dépenses sociales.
Oui, c'est vrai, c'est une réalité, et là, c'est pour ça que moi que je propose qu'on ait un nouveau système de retraite. Meilleur pour la pension des Français et moins coûteux pour nos dépenses publiques et nos dépenses sociales, en intégrant notamment une part de capitalisation. C'est la clé, parce qu'on voit effectivement que aujourd'hui une grosse partie de nos dépenses sociales servent effectivement pour nos retraites. Après, nos retraités, ils ont cotisé. Évidemment qu'on doit payer leur pension de retraite, mais pour l'avenir, je pense qu'il faut qu'on assume de faire évoluer notre système de retraite. Parce que quand le modèle social a été créé, la logique, c'était que les travailleurs payaient des cotisations sur leur salaire pour protéger les travailleurs. Aujourd'hui, les travailleurs payent des cotisations sur leur salaire qui majoritairement protègent des non-travailleurs.
Oui.
C'est les retraités, c'est les personnes qui sont au chômage, c'est les personnes qui sont au RSA ou en arrêt maladie de longue durée. Et ça, c'est plus tenable pour les gens qui travaillent.
Zoran ?
On pourrait aussi, bonjour Monsieur Attal, on pourrait aussi, en réduisant le brut et le net, enfin la différence, on pourrait faire une capitalisation obligatoire aussi. C'est-à-dire que on obligerait aussi les salariés à cotiser par capitalisation dans cette différence entre le brut et le net, ce que font certains pays, ce qui ferait qu'on s'endetterait moins pour les retraites aussi. On vante souvent les pays du Nord, la Suède, la Norvège, et eux, ils ont trouvé la solution. Hein. C'est la retraite par capitalisation et l'allongement du temps de travail.
Si on n'avait pas de système de retraite en France et qu'on devait en créer un aujourd'hui, ne serait-ce que pour des raisons démographiques, on ne le créerait pas par répartition comme aujourd'hui, on le créerait par capitalisation. Et je vais vous dire, c'est pas qu'une question de finances sociales et de retraite, c'est aussi une question économique. Pourquoi est-ce que les Américains ont gagné la bataille du numérique, ont des géants du numérique, ils sont meilleurs pour financer leurs startups? Parce qu'ils ont des fonds de pension Et s'ils ont des fonds de pension, c'est parce qu'ils capitalisent pour leur retraite. Et malheureusement, on n'a pas ça, nous, en France.
Mais alors, Gabriel Attal, c'est une révolution des esprits qu'il faut mettre en place. Et ça ne va pas être simple, parce que vous savez très bien qu'il y a beaucoup de conservatisme ici ou là. Et dès qu'on veut changer des choses, un modèle social qui a été mis en place après la guerre, eh bien, on fait référence justement aux anciens qui ont bâti ça. Et on dit, bah, il ne faut surtout pas toucher à tout ça. Comment vous allez essayer de convaincre les Français que mais, malheureusement, il faut cette révolution?
Bah, d'abord, en étant lucide et clair sur le diagnostic, le fait qu'on a un système à bout de souffle. Ensuite, vous savez, moi, je pense que les Français, ils sont prêts à ce changement. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui pensent aujourd'hui que notre système fonctionne comme un système par capitalisation. J'étais la dernière fois dans une réunion publique, je crois que c'était en Alsace, et j'avais interrogé la table, je leur avais dit qu'ils s'y pensent que les cotisations qu'on vous prélève à la fin du mois sur votre salaire pour la retraite, elles vont vous attendre quelque part dans une caisse qui vous est reversée une fois que vous êtes à la retraite. Il y a les deux tiers de la salle qui avaient levé la main. Et quand je leur ai dit, mais vous savez que les cotisations qu'on vous prend à la fin du mois, elles vont pas vous attendre pour quand vous serez à la retraite, elles vont immédiatement, le 2 du mois suivant, oui, payer les pensions des retraités actuels. Et comme il n'y en a pas assez de vos cotisations, bah on prend aussi une partie de vos impôts. Vous avez une grande partie de la salle qui a découvert, en fait, que le système fonctionnait comme ça. Oui. Donc, moi, je pense que c'est peut-être le terme capitalisation qui, parfois, fait peur, oui, etc. Mais la réalité, c'est que sur le fonctionnement du système, sur la logique, enfin, le rêve français, ça reste toujours de s'endetter pour devenir propriétaire de son logement. C'est la part de capitalisation de notre système qui dit pas son nom, mais qui a toujours existé en France. Donc moi, je pense que c'est possible. Voilà, à condition de bien expliquer, ouais, les choses et de convaincre les Français qu'il y aura du mieux à travers ça, parce qu'effectivement, c'est moins de dépenses sociales, donc c'est des meilleurs salaires et par ailleurs, c'est des meilleures pensions de retraite aussi.
Oui, il faut expliquer qu'il y a du mieux derrière, parce que c'est vrai que souvent, ouais, les réformes sont présentées comme du moins, en fait, comme un effort. Là, vous dites, au final, ça profitera aux salariés français. Sandrine Pégan.
Oui, bonjour, Monsieur Attal, c'est Maître Pégan. Alors, après qu'on ait été interrompu, je disais que moi, j'étais prête à signer tout de suite et aller boire un café avec vous. Mais à un moment donné aussi, je veux quand même comprendre quelque chose, parce que vous avez indiqué qu'on pouvait augmenter la TVA, qui serait intégralement affectée à cette hausse du salaire net. Mais la TVA, on est d'accord que tout le monde la paye. Donc, y compris, ouais, les retraités, les étudiants et les ménages modestes. Donc, moi, j'ai peur que si on augmente la TVA pour financer cette mesure, est-ce qu'on ne reprend pas d'une main ce que l'on donne de l'autre? Vous voyez, moi, c'est ça qui me fait un peu peur.
Alors, pour l'instant, moi, on travaille sur différents scénarios sur le financement de cette mesure. Il y a une partie qui se fait avec des économies. Et ensuite, sur la question du financement de notre modèle social, il y a effectivement des gens qui proposent de remplacer des charges qui sont prises sur les salaires par de la TVA. Et effectivement, cette voie-là, ça reviendrait à dire que pour la première fois, c'est pas ceux qui travaillent qui payent pour ceux qui ne travaillent pas, c'est ceux qui ne travaillent pas qui vont faire un effort pour ceux qui travaillent. Parce que c'est vrai que le salarié, dans ce scénario-là, bah, il serait gagnant, parce que lui, son augmentation de salaire serait beaucoup plus importante que ce qu'il paierait de plus en TVA. Par contre, effectivement, pour ceux qui ne travaillent pas, ça serait un effort net. Donc, moi, je regarde,
c'est une très bonne chose.
Il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi là-dessus, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Je vous recommande le livre de Antoine Fouché qui a travaillé sur différents scénarios. Moi, je rencontre
une nouvelle lecture pour cet été.
J'étais hier avec Michel-Édouard Leclerc.
Ah oui, tiens, justement, attendez, on s'arrête sur cette info, parce que en Bretagne, vous avez obtenu le soutien d'un Breton, Michel-Édouard Leclerc. Il sera votre Premier ministre?
Ah non, attendez, d'abord, je veux pas parler pour lui, et c'était pas du tout dans une logique de soutien pour ma candidature.
Ah bah, il a dit beaucoup de bien de vous, et il donne l'impression qu'il est en train de vous soutenir. Alors que lui-même non. aurait pu être candidat, puisqu'il laissait planer le doute.
Oui.
Non, mais.
Il l'avait laissé entendre, d'ailleurs.
Moi, j'échange avec des Françaises et des Français qui ont des idées pour le pays et pour que les Français vivent mieux. Michel-Édouard Leclerc en fait partie. Et d'ailleurs, les Français, je pense, lui reconnaissent depuis des années. Il intervient beaucoup dans le débat public pour faire un certain nombre de propositions. En tant que dirigeant d'entreprise, également, il s'est beaucoup engagé sur ce sujet. Donc, effectivement, on échange régulièrement. Et il m'a reçu chez lui, à Landerneau, où il y a une fondation qui a été créée, d'ailleurs, par ses parents, qui permet l'accès à la culture en dehors des grandes villes. C'est extrêmement positif ce qu'ils font. Et il m'a organisé un déjeuner avec des chefs d'entreprise bretons, et on a parlé de cette question des salaires, de la rémunération. Moi, c'est avec les acteurs économiques, et notamment ceux du terrain, que je veux construire mes propositions et mes solutions.
D'accord. Une dernière question. On parlait ce matin aussi des incendies qui font rage en Nouvelle-Aquitaine, en Gironde, dans les Landes. On vous accuse, Gabriel Attal, quand vous étiez Premier ministre, d'avoir retardé les commandes de Canadair. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, on en manque tant. Que répondez-vous à ces accusations ?
Bon, c'est les fake news habituelles de la France insoumise. Vous avez vous-même, Monsieur Truchot, reçu il y a quelques jours sur BFM TV l'ancien président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers,
oui,
qui a répondu à cette fake news de la France insoumise. La réalité, c'est que mon gouvernement est le premier à avoir commandé des Canadair depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il n'y avait pas eu de commande de Canadair. J'ai commandé avec mon gouvernement deux Canadair qui doivent arriver fin 2028. Ça a toujours été le calendrier qui a été prévu. Et ensuite, il y a deux Canadair supplémentaires qui ont été commandés ensuite après moi. Mais voilà, c'est les méthodes habituelles de la France insoumise. Ils se déploient en meute pour raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux, dans les médias. Et ensuite, ils se disent, même si on est démenti, il en restera toujours quelque chose dans la tête des gens. Moi, je veux en profiter de cette question pour rendre hommage à nos pompiers qui, de façon totalement héroïque, sont mobilisés en ce moment partout en France. Il y a des incendies et une saison des incendies qui a démarré beaucoup plus tôt que d'habitude, qui est beaucoup plus intense que d'habitude. Et ils font face avec énormément de courage et ils sont tout à fait héroïques. Les moyens de la sécurité civile, ils ont beaucoup augmenté ces dernières années. Les moyens aériens notamment, on a 70 moyens aériens aujourd'hui. Il n'y a pas que les Canadair. Et évidemment, il faut continuer à les renforcer. Mais je suis, mon gouvernement est le premier à avoir fait des nouvelles commandes de Canadair depuis 20 ans. Donc plutôt que m'attaquer comme le fait la France insoumise, on peut poser la question à mes prédécesseurs, pourquoi est-ce qu'ils n'en ont pas commandé avant ?
Merci Gabriel Attal d'avoir été en direct avec nous par téléphone. Vous êtes en déplacement de campagne du côté de la Bretagne. On va continuer rapidement entre nous d'évoquer ce qu'il vient de dire. Est-ce qu'effectivement c'est les bonnes solutions ? Il faut réduire l'écart entre le brut et le net et donc rogner aussi sur des dépenses sociales, revoir notre système de retraite, bref, faire une réforme de notre modèle social. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.
Avant de revenir sur les propositions de Gabriel Attal faites à l'instant en direct avec lui sur RMC dans les Grandes Gueules, je vous rappelle quand même qu'il y a ce séjour de deux jours avec nuit d'hôtel pour quatre personnes à gagner. C'est pour le Parc Astérix. On vous fait gagner ce séjour au Parc Astérix toute la semaine. Deux adultes, deux enfants. Donc à vous d'en profiter en envoyant le mot parc au 732-16. Parc au 732-16. Il y aura forcément une gagnante ou un gagnant et qui sera d'ailleurs en direct tout à l'heure vers 11h20. À vous de jouer, à vous de gagner. Alors Gabriel Attal propose de réduire l'écart entre le salaire brut et le salaire net en supprimant des aides sociales, en réformant l'assurance chômage, en revoyant aussi notre système de retraite qu'il repose un peu plus sur la capitalisation. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que c'est faisable ? Et surtout, est-ce que ça peut passer une campagne présidentielle ? C'est ça la question, Zoran. Est-ce que les Français peuvent dire oui ?
Ah, moi, je pense qu'ils peuvent dire oui. Et puis, je ne sais pas si c'est faisable et comment il va le réaliser. Mais en tout cas, c'est même d'une urgence pour la santé mentale, je pense, du salarié. Moi, je le constate tous les jours, une démotivation, mais normale et naturelle.
Parce que les salariés disent, moi, je suis pas assez payé.
Déjà, il faudrait qu'ils comprennent leur fiche de paye.
Oui.
Ce pourquoi on prend cet argent et où il va. Et avec la détérioration des services publics, de nos écoles, enfin de tout ce qui est régalien, les gens se sentent plus en sécurité. Ils se demandent où va cet argent aussi. Donc je pense que pour la santé mentale du salarié, pour redonner une motivation supplémentaire, il faut qu'ils se lèvent le matin en sachant qu'ils vont gagner leur vie et non pas qu'ils vont survivre à travailler. Et voilà, je pense que
il y a des salariés qui te demandent mais je comprends pas pourquoi il y a tant d'écart entre toucher ce que je touche réellement.
Il y a des salariés qui me demandent et j'ai pas de réponse. C'est-à-dire même moi je comprends pas.
Non.
Les comptables, même eux, ne comprennent plus.
Ah ben, moi, ma fiche de salaire, je n'ai jamais rien compris.
Ouais, ça devient.
Vous êtes devenu profession libérale, messieurs. Pourquoi vous restez salarié?
Je pense que la profession libérale, c'est pas tout simple.
Je disais ça de façon vraiment ironique, puisque ça serait peut-être plus intéressant de revenir au salariat. Moi, je trouve que Gabriel Attal manque un peu de crédibilité. Il va falloir creuser un peu tout
pourquoi
ça.
Pourquoi? Parce qu'il a été au pouvoir?
Non, mais parce que par rapport à ce qu'il propose, tu vois, un choc de 40 milliards d'euros, évidemment que c'est tentant. Alors bien sûr que j'adhère à ses promesses puisque le travail doit payer. Maintenant, on reste vraiment dans le flou encore au niveau du financement, de la TVA, etc. Je pense que, tu vois, pour qu'il y ait une présidentielle, il va vraiment falloir creuser davantage et être plus transparent.
Jean-Loup, avant d'écouter Marc au 32-16.
Non, ouais, je pense qu'il faut, tout ça va dans, c'est une bonne analyse qui va dans le bon sens. Mais je pense qu'il faut vraiment faire des choix et assumer justement une nouvelle répartition de la richesse en France. C'est-à-dire favoriser ceux qui travaillent par rapport à ceux qui ne travaillent pas, favoriser le producteur par rapport au consommateur. Voilà. Et en effet, il faut une hausse de la TVA. Cette hausse de la TVA, elle va favoriser, donc la TVA sociale, elle va favoriser ceux qui travaillent parce qu'ils auront une augmentation de revenus plus importante que justement l'augmentation des prix du fait de la hausse de la TVA. Mais par contre, ça défavorisera ceux qui ne travaillent pas et ça défavorisera les retraités. Et il faut l'assumer, parce qu'une société ne peut pas fonctionner en s'appuyant sur ceux qui ne travaillent pas et en privilégiant ceux qui ne travaillent pas. Donc, il faut assumer ça. Il faut assumer de désindexer les retraites de l'inflation, pour ce qui d'ailleurs a été longtemps le cas, pour justement parce que là, ces dernières années, on a eu de l'inflation. L'inflation, normalement, pour un État endetté, c'est une bonne nouvelle. L'inflation mange la dette. Mais comme nous, on aligne tout sur l'inflation et qu'on augmente d'autant tout, à commencer par les pensions de retraite, bah évidemment, l'inflation ne te sert à rien, ne te désendette pas. Ah non, trop tard.
Il était en plein dedans. Juste sorti du tunnel.
Eh ouais. T'as vu le sens du timing, ma biche?
Marc était avec toi au 32-16. Bonjour Marc.
Bonjour.
Vous nous appelez du Var. Alors oui. Vous n'êtes pas salarié, vous êtes gérant d'entreprise, c'est ça?
C'est ça. Moi, je suis travailleur non salarié, moi.
D'accord.
Au sein de mon entreprise, donc je travaille tout seul. Et en fait, du coup, je voulais juste faire un résumé de la situation. C'est quand vous voulez acheter, par exemple, moi, quand je veux acheter un produit à 1000 euros, d'accord,
ouais.
pour voir l'échantillon de tout ce qui se passe sur le prix d'un produit. Donc, vous voulez acheter une table à 1000 euros. Grosso modo, donc moi, je suis obligé de facturer une prestation à mon client qui va lui coûter 1200 euros.
Ouais.
D'accord, parce que quand il va verser ces 1200 euros sur mon compte d'entreprise, il y a 200 euros qui partent en TVA.
Ouais.
Je critique pas, hein, mais je raconte l'histoire.
Oui,
du coup, je prends les 1000 euros, l'URSSAF me prend 460 euros, ce qui fait ce qui fait 660.
Ouais.
D'accord. Et quand j'achète la table, elle est de nouveau soumise à la TVA qui revient à peu près à 160 euros, ce qui fait que pour une table à 1000 euros, elle vous revient à 1820 euros.
C'est dingue.
820. Non, mais la TVA, c'est l'impôt le plus injuste.
C'est dingue.
Non, mais après, que ce soit injuste ou pas injuste, voilà ce qui se passe. Maintenant, deuxième point, mais là, je travaille avec l'URSSAF justement, et pour ça, c'est que quand vous avez besoin d'argent pour payer vos taxes, vos taxes privées, puisque quand vous êtes professionnel, vous êtes aussi un privé, donc vous payez vos taxes foncières, la taxe d'habitation n'existe plus, mais vous payez vos taxes foncières, l'URSSAF. Donc vous êtes obligé de reprendre de l'argent de votre société pour payer votre taxe foncière, parce qu'on vous les impose, c'est normal de les payer. Donc vous êtes de nouveau taxé à 20% de TVA sur votre taxe foncière qu'on vous impose de payer, plus les 46%. Donc si vous avez une taxe de foncière de 1000 euros, elle vous revient à 1640 euros. Donc il y a des choses qui sont anormes, qui sont pas logiques. D'accord, qui sont pas justes et qui sont pas logiques. Et après, les petites questions, c'est ben voilà, déjà que tout le monde commence à payer, enfin peut-être que les députés commencent à payer déjà des impôts sur leur salaire complet plutôt que sur la moitié de leur salaire. Enfin, c'est des réflexions à avoir.
Mmh.
Et on est vraiment dans une rupture. On est vraiment dans une rupture.
D'accord, hein.
On peut plus continuer comme ça.
Tout à fait. Oui. On est abasourdi des charges. Ça devient, comme je dis, absurde, violent et indécent. Absurde parce que on ne sait plus où va cet argent, violent parce que voilà, c'est la violence quotidienne des salariés, et des petits entrepreneurs, et puis il y a pas de bout en fait à ça. C'est-à-dire que c'est le chat qui se mord la queue. On prend de l'argent, on paye des charges pour payer ces charges, vous devez rebosser, reprendre de l'argent et en fait ça c'est un cercle infernal.
Un cycle infernal. Merci Marc en tout cas pour cet exemple, on voit bien que ça reste compliqué.
Après, on voit bien la table, là, oui.
Oui, mais après, nous sommes aussi fiers de notre modèle social, de l'école gratuite, de l'hôpital qui nous reçoit, qui on va aux urgences, on sort pas sa carte.
Mais j'interviens.
Très vite, 10 secondes.
Ok. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir un modèle social avec des services publics qui fonctionnent et une école gratuite sans avoir autant de dépenses sociales. Il y a 40 ans, tu avais déjà l'école gratuite, tu avais moins de dépenses sociales.
Allez, dans un instant, on se retrouve avec le chanteur Amir, obligé d'annuler son concert à Marseille après Barbara Butch. Est-ce que les artistes juifs peuvent-ils encore se produire en France ? À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.